C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, bien le bonjour, c'est Charles Cécile. Alors, eh bien il a l'accent chantant du Sud, mais ce n'est pas en Occitanie que nous rencontrons Claude Delsol. Nous sommes en Martinique pendant le Festival international de contes Graines de Parole. Et c'est dans un appartement de la banlieue de Fort-de-France que notre conteuse globe-trotteuse Anne-Gaëlle Goduchot a rencontré et interviewé le conteur Claude Delsol. Claude Delsol est un artiste du spectacle vivant, conteur, magicien, clown et militant engagé. Pour lui, toutes les techniques du spectacle vivant sont intéressantes du moment que le propos passe. Avec un tour de prestidigitateur, la parole devient image. Et voilà qu'il arrive à faire jaillir sur scène ces images qui habitent le monde du conte. Tout est prêt, le micro, le soleil tropical des Caraïbes, et on s'envole à Fort-de-France.
I still have a dream. Yeah.
Sol. Bonjour.
Bonjour Anne-Gaëlle.
Ça va bien?
Ça va, je suis bien ici. Alors, ouais. Ça va? On est en Martinique, entre les courants d'air.
C'est ça, les alizés qui traversent l'appartement.
Voilà, qui nous traversent aussi.
Qui nous traversent aussi. Et conteur, comment c'est venu?
Moi j'étais très impliqué dans tout ce qui était tradition, fête, carnaval et compagnie. Et chez nous, chez nous, dans l'Aude, puisque moi je suis originaire de Carcassonne, tu embrasses un personnage, tu prends un personnage et tu le joues dans le carnaval en chinant les gens, en embêtant les gens. Donc c'était les embêter, quoi. Voilà. Donc tu prends un personnage, tu es dans la rue et puis tu es masqué. Donc moi, très vite, j'étais très attiré par tout ce qui était fête et tout ce qui était expression du spectacle vivant.
Là, tu parles aussi de tradition. On parle occitan.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais moi, je fais partie des gens qui ne parlaient pas occitan parce qu'on ne m'a pas transmis la langue au sein de ma famille.
Ta grand-mère ou toi?
Non, mes parents. Mais je sais que ma grand-mère parlait, je sais que mon père parlait, mais ils ont fait partie des générations, notamment mon père, où il ne fallait pas parler la langue. Donc, je pense que mon père a été petit dans l'école, on lui interdisait de parler cette langue. Et puis c'était la langue des paysans. Oui. Tu vois, ma grand-mère, elle est venue
on
à Carcassonne.
On regardait ça de haut en disant...
Bien sûr. Ouais. Donc, ma grand-mère est arrivée, elle était fille-mère. Elle a trouvé quelqu'un qui pouvait la protéger, qui était un notable carcassonnais. Il était hors de question de parler occitan. Pas la langue des paysans. Pas la langue du peuple. Mais les traditions existaient. Moi, je sais que j'étais en permanence là-dessus. Et donc, de carnaval, les traditions populaires de la rue, etc. Ouais. Moi, en plus des études de pédagogie, j'ai continué le théâtre, j'ai continué le clown, j'ai continué le chant, je me suis vraiment formé à ça. Et puis, en 83, dans les années 80, j'ai découvert la magie, la prestidigitation, j'ai commencé à faire des petits tours de magie. le monde d'éducation populaire, des colos, bah, tu as toujours du public devant toi, donc tu fais toujours des conneries, ce qu'on appelle des conneries.
Voilà. Des conneries, quoi.
Des petites conneries, tu commences à raconter, les fins de stage, tu commences à écrire quelque chose, à faire des choses. J'étais très, très branché là-dessus. Et puis voilà, en fait, j'avais fait le choix d'une carrière pédagogique, mais quelque part, ça me turlupinait de faire autre chose. Donc j'ai levé la tête très tardivement quand il a s'agi de... Je me suis dit, ah, mais il y a des écoles de théâtre, je ne savais pas. Ah, il y a des conservatoires, je ne savais pas. Franchement, moi, je fais partie d'une génération où on ne parlait pas de ça. De conteurs de tradition, c'est-à-dire dans les villages, il y avait toujours quelqu'un qui détenait la parole. Moi, dans ma famille, il y avait un grand-oncle qui était le bout en train des fêtes. Il racontait toujours des contes, des blagues, des contes facétieux, etc. Après, il y avait à Carcassonne, il y avait le Garay, le groupe d'animation de recherche sur l'ethnographie qui avait été initié par un grand monsieur qui s'appelle René Nelly. Il y a toujours eu des groupes de recherche, de collectage, de traditions. Il y avait un bulletin. Et donc, à Carcassonne, au centre de la mémoire, qui est devenu le centre de la mémoire animé par les frères Pignès, c'est une mine d'or. Moi, je sais que bon, je suis parti de Carcassonne, mais ça m'est arrivé.
Tu trouves des chansons, il faut des contes, fouiller. Des histoires.
Ah oui, des histoires, des tas de choses, de villages. Il y a un travail colossal et une mémoire qui est dans les livres qui est colossale.
C'est pas pour dire, mais on est en Martinique et Claude Delsol est au micro de Angèle Goduchot.
À quel moment tu dis Claude Delsol, conteur?
Ben, je faisais mes kunaïres, donc je racontais des histoires aux petits. Donc, en plus, je partais du principe à cette époque-là, c'est peut-être encore une réalité, mais quand un gamin te dit raconte-moi une histoire, tu n'as pas le droit de dire j'en connais pas. Ça, c'était la responsabilité des adultes et des pédagogues.
Tu te disais ça?
Ah oui. Oui. Donc, dès qu'un gamin venait, tu dis, raconte-moi une histoire, tu racontes une histoire. J'avais travaillé le théâtre, j'avais travaillé la comédia dell'arte, j'avais travaillé le canevas, j'avais travaillé tout ça, j'avais travaillé le conte. Enfin, le conte, je n'ai pas travaillé, je m'étais inspiré de tout ça, imprégné de tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire mes petites histoires. Sauf que, traditionnellement, je dis que quand j'étais petit... je parlais beaucoup.
Tiens donc.
Ah tiens donc. Il faut laisser vivre l'enfant qui est à toi, je crois.
Le fameux enfant intérieur qu'il s'agirait quand voilà. Même de temps en temps de lui dire...
Voilà. Et donc petit, moi je me souviens, j'ai encore la sensation d'une maîtresse d'école au CP qui m'a mis du scotch, du sparadrap sur la bouche. C'était pour à ce moment-là, bon,
je crois que
c'était
drôle.
Pas violent, c'était sûrement voilà. C'était je veux pas lui attenter un procès, etc. Et par contre, ce dont je me souviens, c'est d'avoir pris, je me souviens du geste d'enlever ce scotch en me disant, et pourtant j'étais petit, personne ne m'empêchera de parler. Et puis j'ai commencé à écrire beaucoup en dos. J'écrivais des poèmes, j'ai un carnet et j'avais une prof de maths en collège qui m'aimait beaucoup. Et moi, j'avais ce truc-là, je griffonnais pendant les cours. Et un jour, elle m'a volé ce carnet. Et la semaine d'après, elle a cru bien faire, et elle a dit mes poèmes devant les gens. Tu vois, et quelque part, à ce moment-là, j'ai dit, là aussi, je veux dire, l'écriture, ça passera pas par l'écriture. Et le conteur, eh bien, donc je dis ça parce que après j'ai continué dans les arts vivants, etc. Et puis j'ai eu le coup de foudre pour la magie, tardivement, mais j'ai beaucoup travaillé la magie. Et donc je racontais des et puis quand j'ai continué le théâtre à l'université, avec des copains, on a monté des spectacles qui fonctionnaient très bien, à tel point qu'on s'est même posé la question de la professionnalisation. Sauf que les gens me disaient, à Bordeaux, hein, ils disaient, c'est bien ce que vous faites, c'est super comme spectacle. Mais toi, on ne te comprend pas, en parlant de mon accent.
Faire du théâtre, il va falloir perdre ton accent. Ouais.
Et ça, moi, je n'ai jamais voulu. Ouais. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, ça sera le prix de ma liberté, mais je garde l'accent. Mmh. Donc, quand tu parles, que tu as l'accent, que tu es dans le, que tu es enraciné dans le terroir languedocien et que tu veux exprimer quelque chose, le conte apparaît de fait. Mmh. Tu vois, le conte ancré dans les terres. Mmh. Et donc, moi, la magie, en plus, j'avais mon accent. Et puis, tu vois bien, là, je te parle, on ne le voit pas, avec les mains. Mmh. Et donc, plutôt que d'apprendre à mettre les mains derrière le dos et de raconter sans accent, j'ai dit, mais non, tous ces handicaps, fais-en des avantages. Apprends à faire danser tes mains. Donc, j'ai créé une chorégraphie et j'ai associé la magie des mots avec la magie des objets, la manipulation. C'est pour ça que, très rapidement, je me suis présenté comme magicien conteur des mots et des objets.
Entrez sous le plus grand chapiteau. Entrez, mesdames et messieurs, car dans mon cirque, vous allez assister à la grande parade des animaux. En effet, dans mon cirque, mesdames et messieurs, vous y verrez des lions, vous y verrez des éléphants, vous y verrez des jongleurs, des acrobates et même peut-être le fakir. Mais à la fin de ma parade, mesdames et messieurs, vous y verrez les clowns. Dites-moi, les clowns, on les connaît, on les reconnaît. Vous savez comment on reconnaît un vrai clown? Ils ont tous un gros nez rouge sur le nez. Mais est-ce que vous savez d'où vient le premier clown du monde et de la terre? Mon pépère à moi, il le savait. Un jour, dans son village, un cirque est arrivé. Oh, pas un cirque avec trois pistes, pas un cirque avec des lions. Pas un cirque avec des éléphants, non, un tout petit cirque, avec un tout petit chapiteau. D'ailleurs, dans ce cirque, en vérité, tous les numéros se faisaient avec des chevaux. C'est ce qu'on appelle le cirque à l'ancienne. Et dans ce cirque, vivait un enfant qui n'était pas plus haut que 8 pommes, 8 années. Il avait un prénom. Il s'appelait Auguste. Ben quoi, c'est pas bien marrant, il y a bien des enfants qui s'appellent Alain, Aïcha, Wilfried, Peter, Robin. Et bien lui, tout simplement, il s'appelait Auguste. Il avait 8 pommes sur la tête que déjà il avait un métier. Son métier, c'était d'être palefrenier. On ne sait plus ce qu'est un palefrenier. En vérité, c'est quelqu'un qui s'occupe des chevaux.
Auguste, de Claude Delsol. Extrait du disque Nuit du Conte à Montréal, enregistré lors du 11e Festival interculturel du Conte de Québec. C'est pas pour dire.
C'est quoi ton rapport à la magie ?
Je le dis dans quand on me parle de pédagogie ou quand il faut faire des interventions, mais si tu prends le mot magie et que tu l'écris, tu vois, sur un papier M-A-G-I-E, c'est un mot qui est extrêmement magique puisque tu as de ces 5 lettres, tu peux en faire un autre mot, c'est image. Mm. Et donc c'est là où moi je t'ai fasciné sur le fait de pouvoir créer des images. Et après, chacun était capable de se les dessiner, de se les colorier. Mm. Être magicien dans notre société, c'est aussi apporter du rêve, Très vite, j'ai fait mienne la phrase « Il n'y a de merveilleux que pour celui qui sait s'émerveiller ». Donc, moi, c'est... Bon, j'aime bien... Tu le vois quand tu vis avec moi. Bon, c'est vrai que je suis peut-être trop présent. Peut-être que ça étouffe des gens, etc. Mais il n'y a pas une situation où je me dis « Ils ont le droit à la magie, au merveilleux ». Et donc, de ce réel qui nous bouffe, moi j'arrive et hop, je crée...
Je t'ai vu dans les lieux publics, dans les bistrots, tout d'un coup, tu fais apparaître une pièce, tu la fais disparaître. Et j'ai vu le regard des gens qui tout d'un coup, en effet, semblent en tout cas se mettre en connexion, en relation avec quelque chose de l'ordre de la... De l'enfance, ou en tout cas de l'émerveillement, oui.
De l'émerveillement. Ouais. Bon, et c'est quand même... C'est quand même une fonction, enfin, un personnage, le magicien, qui c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est magicien, la fée, etc. Tu te rends compte, moi, j'ai la possibilité de concrétiser ces images qui peuplent le monde du conte, les personnages du conte. Je suis magicien, donc voilà, moi. Mmh. Et alors après, ben, soit j'ai une routine, ce qu'on appelle un ensemble d'effets magiques que tu connais avec des cordes, avec des balles, etc., donc qui sont bien décrits dans le monde magique. Et à ce titre, après, moi, j'y accole une histoire qui obéit à cette logique par l'histoire du canevas, donc de la Commedia dell'arte. Soit alors, ben, je prends, pour avoir pratiqué, bon, pour avoir lu des histoires, il y a des histoires qui s'imposent. Mmh. Et donc, je les réadapte pour essayer d'y mettre un effet magique.
Alors, par exemple, ça peut être quoi?
Moi, j'ai une adaptation de Tuolang, par exemple, donc un traditionnel chinois. C'est l'histoire d'un peintre Tuolang qui chez lui peint, quoi. Et en fait, il est assez en opposition avec son environnement, puisqu'il est toujours chez lui. Et quand il vient dans le village, il sourit. Et puis, est-ce qu'il est peintre, est-ce qu'il est idiot? Le sage s'adapte au monde, le fou le transforme, est-ce que c'est ça? Et puis, un jour, on ne le voit plus, on ne sait plus où il est. Et puis, quand on va chez lui, on s'aperçoit en ouvrant chez lui que, il avait passé son temps à faire des portraits des gens, mais en plus avec un souriant. Mmh. Et l'histoire dit, la légende dit que le dernier jour où il était chez lui, la mort est arrivée pour le prendre, pour l'amener au royaume céleste. Et quand vieux père a dit, mais pourquoi tu dessines des visages, et il dit, mais parce que ce sont les plus beaux paysages du monde. Et là, moi, j'ai fait une extrapolation, je me suis permis de continuer en disant que, en fait, si tu es triste, donc, si tu n'es pas content de ton visage, ça, Henri le dit, tu n'as qu'à te plaindre, maintenant, tu sais à qui te plaindre. Mais moi, je dis, si tu es triste, lève les yeux et tu verras, à un certain moment, tu verras la Voie lactée qui est en fait le grand sourire de l'humanité. Mmh. Et donc, j'ai un effet magique de ce qu'on appelle une neige japonaise, c'est-à-dire que j'ai un papier que je déchire en petits morceaux et avec un éventail, ça fait un nuage de petits papiers. Et voilà, ça fait penser que c'est la Voie lactée. Et à la fin, je dis, si tu n'as plus rien à offrir, offre donc un sourire de ton visage.
Il a jonglé avec les mots et la musique et d'autres choses. On a crié bravo en le réclamant à tue-tête sur les pistes du monde entier. Dans son numéro de poète, il était adoré. Ne cherchez pas à lire mon nom sur mes papiers.
Oh, wow.
J'ai lavé mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi fumée. Appelez-moi nuage. Laissez le reste en blanc sans rien me demander. Je n'ai jamais volé. que mes instants de chance. Je n'ai jamais tué que le temps qui passait. Mes poches sont trouées, mais je garde en secret le coquillage bleu du fond de mon enfance. Vous n'avez pas le droit de prendre mes bretelles. Ouvrez-moi cette porte. Je n'ai rien demandé. Simplement, je passais. Si je n'ai pas de nom, c'est que nul ne m'appelle. Je suis très bien ainsi. Je ne mendiais pas, n'étais même pas ivre. Mais s'il faut à tout prix mettre un nom sur vos livres, appelez-moi fumée, appelez-moi nuage, laissez le reste en blanc. Ta-da-da-da.
On peut entendre l'émerveillement des enfants quand une boule de papier enflammée devient un mouchoir qui, avec un geste délicat de la main, finit par disparaître. C'était un extrait des archives de Claude Delsol, une digression magique d'un texte de Francis Blanche, « Ne cherchez pas à lire mon nom ».
J'avais besoin de retrouver, non pas ma langue maternelle, c'est pas du tout ma langue maternelle, mais la langue nostre. Nostre, tu vois, ça, c'est c'est Léon Tolstoï qui a dit, voilà, décris bien ton village et tu seras universel. Et ça, moi, je trouve que c'est par mon identité propre que je peux rencontrer l'autre identité et dans l'humanité et faire humanité.
Il peut y avoir une tentation de faire folklorique.
Oui, bien sûr. Ouais. En permanence.
Comment tu gères ça, toi ?
Après, c'est folklorique, c'est le conservatisme, c'est le fait de dire je reste, c'était mieux avant. C'était mieux avant et je garde ces traditions. Par contre, voilà, et par contre, tu peux avoir aussi la tradition. Moi, je fais partie des gens qui pensent, qui le dit de façon très poétique, et qui dit, c'est en coulant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Et qu'on est dans une société qui va toujours plus vite et qui a tendance de faire table rase du passé pour aller toujours plus vite. Sauf qu'à un certain moment, on pourrait dire, attendez, on calme le jeu, on réfléchit, on analyse ce qu'on a fait, et puis de cette analyse, on avance. On le voit bien avec l'histoire du Covid. On a dit, ça sera jamais comme avant. Bilan des courses, on se retrouve maintenant. On n'a pas donné aux gens la capacité de réfléchir collectivement pour avoir un propos qui soit structurant pour eux. Et ça crée des paniques dans le monde de l'éducation, les lycées professionnels, etc., où les gamins ont été déscolarisés. Qu'est-ce que ça va faire au niveau de là au sortir? On s'en occupe plus. Ça déstructure complètement une société. Il y a plein de gens qui sont, et on leur a pas donné une place quelconque dans ce cheminement à faire. Donc on fait pas société. Et qui dit de pas faire société, dit qu'à un certain moment, il y aura un effet boomerang. Moi j'aime bien prendre le temps. Alors voilà, j'ai le privilège de pouvoir travailler avec le temps et de travailler avec la mémoire. Et ça me plaît. Ça me plaît. Je suis assez en réaction épidermique avec le monde du conte, mais c'est vrai qu'on en est encore là-dessus. Il y a des festivals qui constituent leur programmation parce qu'il leur faut, il faut un Africain de service. On dit, tiens, là maintenant, ça serait le répertoire arabe, puis on a eu besoin des Arabes de service, puis après ça a été le répertoire africain, puis québécois, et puis maintenant c'est quoi, c'est manouche, c'est voilà, on cherche des trucs, et ça va complètement à l'opposé de ma pensée, c'est-à-dire que moi j'ai envie qu'on soit universel, mais voilà, au niveau des festivals on en reste à certains moments dans du folklorisme, voilà, et ça moi ça me gêne.
C'est vrai que là le fil est,
ben oui,
est mince.
Le fil est mince. Mais la relation, elle n'est pas mince. Elle n'est pas dénuée de tout sens. Quand on fait venir un Africain pour ça, eh bien, ça va être l'Africain de service. C'est l'exotisme. C'est qu'est-ce que c'est joli la pensée africaine, il nous fait rire, fait nous rire. Moi je sais que j'ai eu des amis africains, des conteurs africains, j'ai essayé de leur dire, mais attention, économiquement c'est peut-être intéressant pour toi, mais fais-moi pleurer, dis-moi ta pensée. Un petit peu comme taxi conteur par exemple, je trouve qu'il a eu cette intelligence de, au début j'arrive zigzag etc, vous voulez l'Africain, je vous le montre au taxi conteur, mais en deuxième partie, ben je vous montre les mythes de ma famille, de là où je viens, de mon ethnie, et là pam, tu entends un mythe de que tu as jamais entendu. Et qui t'ouvre complètement, qui t'ouvre une fenêtre sur le monde en te disant ah oui, d'accord, je comprends.
Promets la lune et la lune le soleil. Et jaloux de la tribune qui disent toujours pareil. Te promets toute la fortune, perds tes facas plus galets. Et te promets toute la lune, perds ta maga le soleil.
Douma quand arrivera.
Douma, douma, douma.
Douma où nous can cerca.
Douma toujours douma.
Douma quand nous can crumpa.
Douma, douma, douma.
Douma que si la ganta.
Douma toujours douma.
C'est pas pour dire un galgo du show qui converse avec le conteur Claude Delsol lors du festival Graines de Parole.
Cette question que je pose toujours parce qu'elle m'intéresse et qu'on n'a jamais fini d'y répondre, mais qu'est-ce qui fait justement, à ton avis, que en 2023, 24, 25, on continue à avoir besoin, envie d'écouter ou de raconter des histoires alors qu'on dispose de moyens tout à fait considérables on a des écrans, on peut avoir accès à de la réalité virtuelle, on a le cinéma, qu'est-ce qui fait que il y a quoi là?
Le monde tel qu'il est, notre société n'a jamais eu autant besoin de raconter des histoires. Alors pourquoi? Je crois qu'on a utilisé la parole et les histoires comme un outil d'asservissement au monde, à nos sociétés. On parle
de devenir conforme.
Du storytelling, on voit bien Walt Disney, je veux dire, une pensée, on coupe tout ce qui peut déranger ou tout ce qui peut servir un propos au service de l'économie. On n'a jamais eu autant de profusion, de la création au service de ça qui vont être un outil de production pour arriver à imposer une société.
La fameuse fabrique du consentement.
Voilà, c'était
la façon. Les histoires pour nous mettre en boîte. Quoi.
Voilà, pour nous mettre en boîte. Pour moi, la fonction du conte, une des fonctions du conte, on pourra en reparler sur d'autres fonctions, mais c'est partager une histoire, donc partager un territoire, partager un groupe d'appartenance. On est là. Je pense que le conte a une fonction émancipatrice, c'est-à-dire qui donne une réponse, qui permet aux hommes d'avoir une réponse pour avancer, s'approprier l'espace et le temps. Je crois que ça c'est important. Le conte avait cette fonction. C'est pour ça que se pose la question au jour d'aujourd'hui, où se situe le mieux le conte. Ça, j'ai ma réponse. Moi, j'ai ma réponse et j'ai mon action.
Que tu ne nous diras pas.
Si, je peux te la dire, simplement. Je pense que plus ça va, plus je me dis que le conte doit être dans la société, dans le quotidien. Ça doit être un élément de réponse quand on se pose des questions. Revenir là-dessus. On avait des contes étiologiques, les contes d'appropriation des choses. On ne savait pas ce qu'il y avait. Pourquoi on se posait la question? Il y avait du conte, puisque la science ne pouvait pas résoudre.
Là, tu parles des contes à propos. Il se passe quelque chose et tout d'un coup, tu dis voilà. « Ah, c'est comme l'histoire
Voilà. Et moi, je pense que le conte a couru... ces dernières années a couru derrière le théâtre, c'est-à-dire le mythe, le conteur qui se dit vivement que j'arrive sur scène avec la mise en scène, avec les effets, lumière, etc. Ce qui est extrêmement réducteur actuellement. Enfin, moi, je le considère comme étant réducteur et en plus accaparant par rapport à une population qui est elle seule peut aller au théâtre, mais pas les autres. Moi, je crois que le conte, il doit revenir dans la cité et dans les usages quotidiens. Par exemple, là, moi, c'est le travail que je fais. Quand je te dis que j'interviens, je suis très, très interventionniste dans le quotidien. Je vais faire un tour de magie, j'ai une relation, il y a une situation qui se pose. Ben, je dis, attends, je vais te raconter une histoire. Mais je ne vais pas m'installer pour faire une histoire pendant 20 minutes, puisqu'on n'est pas dans cette situation. Je ne vais pas lui raconter un conte merveilleux, mais je vais lui donner une ossature de conte. C'est les contes de Nasrudin, enfin, un conte philosophique. Je te donne une graine de pensée. Tu en fais ce que tu veux, mais rien ne pousse qui n'ait été semé. Tu vois, c'est ça. Avec des enfants, avec des adultes, avec des vieux. Hier encore, dans le bus, tu vois, on discutait avec... Voilà, et tiens, je vais vous dire une chose, madame. Et tu laisses ça. Elle le prend pas, ça mûrit. C'est son problème. C'est son problème. C'est son souci. Moi, j'ai laissé une empreinte dans le sentier de sa mémoire. Et je crois que de plus en plus, on devrait de moins en moins être dans les salles, aspirer à être dans les salles ou dans des groupes constitués et libérer complètement cette parole comptée.
Existe dans le regard des autres. Regarder l'autre, c'est se regarder aussi. Je suis un méridional. Je ne peux pas pousser l'art de la parole vers le conte sans l'art du gestuel, sans parler avec les mains. Je suis devenu magicien. Aujourd'hui, Claude Delsol se raconte dans « C'est pas pour dire ».
Il y a un truc qui m'interroge. On est dans actuellement la mode là et cette dynamique d'éloquence. L'éloquence, alors oui, il faut qu'on fasse du théâtre avec des gamins et les amener à un propos. Mais c'est complètement dénué de sens parce que en fait, il y a de moins en moins. Les conteurs ne se sont pas appropriés ça. On n'a pas été capable collectivement de répondre à la demande alors que c'était eux qui auraient pu, les conteurs avec porteurs de sens, plutôt que donner des techniques de théâtre, d'ouverture, de bien parler devant le public, etc. Pour moi, l'éloquence doit être. On touche à la forme qui est au service du fond. Si, mais il faut qu'il y ait un fond pour le dire. Si j'ai envie de dire merde, excusez-moi, mais si j'ai envie de dire merde, je peux dire merde comme ça et je l'assume, ou je peux dire, bon, je peux essayer de trouver de la paraphrase ou peut-être des choses un peu plus nuancées pour que la personne comprenne que j'ai envie de lui dire merde, sans s'opposer.
Là, ce que tu soulignes, c'est la relation au fond, au sens,
oui.
Plutôt qu'à la forme.
Ah oui, moi je suis fondamentalement conscient. Et c'est un... C'est une grosse lacune, c'est une très grosse lacune actuellement, parce que les conteurs que je vois arriver, les nouveaux conteurs, ils sont dans la dynamique de notre société, elle est toujours plus vite, donc il faut vite s'approprier des choses pour produire et pour faire. Mais prends le temps. Quand moi je vois des jeunes conteurs qui se lancent et qui déjà font de la formation alors qu'ils ne sont pas encore formés,
donc c'est du temps, on parle de temps, de maturation
ben oui,
de la parole,
d'apprentissage
et de nécessité aussi.
Oui, d'apprentissage dans la mesure où ben c'est pas du jour au lendemain que tu peux être porteur d'une parole. On peut faire l'analogie avec la comparaison avec le clown. Je veux dire, tu rentres en clown, tu n'es pas clown. Donc il faut du temps pour se patiner,
pour ciseler cette pierre, pour la polir, etc. Je trouve, personnellement, moi, je trouve que ça va un peu trop vite. Mais en même temps, à partir du moment où moi, je fais partie des premières générations où on a professionnalisé le conte, c'est-à-dire, oui, en faire un artiste, on en fait un métier sous le régime de l'intermittence, etc. Eh bien, on est soumis à tous ces problèmes, il faut le faire. Mais, alors, après, je ne vais pas me poser la question, est-ce que qui est conteur, qui est raconteur d'histoire, qui. Mais il y a toutes ces problématiques qui se posent, quoi.
J'ai besoin d'un mot qu'on appelle information. Pour ne pas tomber et pour briser ce grand mur d'incompréhension, j'ai besoin d'un autre mot qu'on pourrait appeler prévention. Et
moi, le sida, pouf, il passera pas par moi.
Et entre jeunes,
on risque rien.
Et entre nous,
on est à l'abri.
Mais un jour, waouh, que tu es belle!
Je te plais, tu me plais, on devient copains.
Et maintenant qu'on est copains,
tu me plais, je te plais, on se donne la main.
Et maintenant qu'on se donne la main,
tu me plais, je te plais, on fait l'amour.
Oh, il faut s'y reprendre à deux fois parce qu'en vérité, le mot séropositivité n'est pas écrit sur un front. Mesdames et messieurs, je vous présente. En vérité, il n'a pas de nom. Mais les scientifiques, pour bien le reconnaître, l'ont appelé VIH. Et maintenant, il commence à vous manger et il fait ce qu'on appelle le festin de la séropositivité. Docteur, docteur! J'ai attrapé le sida. Il m'a regardé, il m'a dit, toi, t'es pas bien informé. C'est pas comme ça qu'on dit. Est-ce que t'as été en contact avec le VIH?
Moi? Plus il me parlait, moins je comprenais.
Deux extraits du spectacle Sida aventure la vie. Claude Delsol, citoyen de l'humanisme, militant, raconte avec l'outil du conte, un spectacle de prévention, de sensibilisation sur le sida, un spectacle qui se positionne dans le théâtre utile, qui traite des problématiques sociales. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas pour dire, Claude Delsol, interviewé par Anne-Gaëlle Goduchot.
Tu parlais d'un métier, d'une... Et du statut avec lequel les gens travaillent. Alors, on ne dit pas un statut, qu'est-ce qu'on dit ?
Un régime.
Un régime d'assurance chômage. Et puis surtout une manière de travailler. Alors toi, tu milites beaucoup.
Alors, il faut juste pour le replacer,
vas-y.
Je suis pas une syndicaliste. J'aime pas rentrer dans une étiquette parce que syndicaliste, on dit oui, lui c'est un syndicaliste, donc on le marginalise. Et puis oui, mais ce qu'il dit, c'est toujours des propos syndicalistes et on n'écoute pas les choses. Je suis un militant. Quand on est arrivé, le jour où on est allé au Carbet, la première faire l'ouverture de ce festival, à côté de nous, il y avait un groupe de personnes âgées qui se retrouvaient pour commémorer le décès d'un militant qui avait été tué en 1948 par les béquets suite à une grève syndicale. Et j'ai discuté avec un vieux monsieur, il devait avoir 94 ans, et plus on parlait, plus on sentait des affinités. Et à la fin, toujours s'il ne me disait pas jeune, il m'a dit, vous savez, tu sais, je crois qu'au-delà des frontières dans le monde, il y a un peuple de résistants. Je suis résistant. Depuis le début, j'ai milité pour les droits des enfants, j'ai milité pour des tas de causes dans mon histoire.
Et oui, je pour suis, ton accent, pour ta langue.
Mon accent, je me suis toujours, j'ai toujours essayé d'être debout. et de dire non par rapport à une pensée collective. Voilà, j'ai dit non. Et quand je suis arrivé artiste, ben j'ai vu qu'il y avait un vrai problème de statut artistique en France. Et il y avait les accords du GATT, il y avait l'exception culturelle. J'ai dit, on va se battre là-dessus. 2003, je me retrouve en pégé. Dans ça, je suis le porte-parole du mouvement. Et puis on y va, quoi. On va dans la lutte. Et là, j'ai vu que je m'étais engagé dans les associations, je m'étais engagé dans les partis politiques, et puis j'ai dit peut-être que c'est la lutte syndicale qui peut être aussi un levier. Et donc, oui, effectivement, là, je suis rentré dans essayer de défendre les droits des artistes, et notamment un véritable statut d'artiste en France. Il y a un côté un peu bizarre en France, c'est que c'est le monde du travail qui paye la culture, par l'intermédiaire de la cotisation sociale et pour alimenter au niveau du chômage un régime particulier qui est le régime de l'intermittence. Entendons bien, si on replace historiquement, l'intermittence, c'était la première flexibilité d'emploi qu'avaient demandé les employeurs parce qu'il n'y avait pas assez d'ouvriers qui voulaient arriver dans l'entreprise, dans l'économie cinématographique. Et qu'ils préféraient rester chez eux plutôt que d'aller. Alors, on a mis en place un régime
super flexible.
C'était très flexible. C'était la flexibilité. On avait besoin de toi, on te prenait. On faisait ce qu'on appelle des CDDU, c'est des contrats à durée déterminée dits d'usage. Quand on n'avait plus besoin de toi, on te jetait. Et puis voilà. Sauf qu'à un moment, les gens qui étaient sur ça ont dit, mais attendez, vous nous exploitez quand vous voulez, on n'est pas des journaliers, on ne va pas revenir au 19e siècle. Donc, assurez-nous une période, au même titre qu'on travaille, une période de chômage. Et c'est comme ça qu'est née l'intermittence. Et donc, j'ai combattu depuis 2003 dans ce milieu. Et à un moment, se crée la PAC. L'association professionnelle des artistes conteurs et maintenant conteuses. Je me dis, c'est la première fois, il y a eu la charte, il y a eu des essais, et là, il y a vraiment des professionnels qui décident de se lier pour parler de quoi ? Des problématiques de profession. Donc, il me semble que la partie sociale est tout aussi importante. Je me suis mis à disposition de l'association, j'ai travaillé, je crois que j'ai essayé d'expliquer des choses, peut-être que j'ai enfoncé des portes, sauf qu'à un certain moment, pas de répondant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de prise de conscience? Pourquoi on n'arrive pas à déterminer sur un salaire minimum de base? Pourquoi on laisse rentrer les auto-entrepreneurs alors que l'auto-entrepreneuriat, c'est... On se fait attaquer de partout. Je veux dire, même dans le milieu artistique, on est actuellement, même le niveau professionnel, on attaque le principe de subordination et ça, on ne peut pas être employeur-employé. Tous ces principes sont attaqués. Notre système social actuellement, qui est un super système qui est basé sur la solidarité, on essaye de nous le ronger, de nous le rogner pour mettre en place de l'assurantionnel. C'est-à-dire, tu as de l'argent, tu peux payer. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer.
Oui, et puis l'interprofessionnel.
Voilà, et donc moi, de ce côté-là, je me bats pour ça. Alors, quand tu te bats pour des idées, pour des trucs, pour des mouvements, parce que je me suis mis avec les copains, j'ai dit, si tu as un problème, tu m'appelles, je peux t'aider. C'est vrai que je suis rentré au syndicat français des artistes, le SFA, CGT. C'est vrai que je suis allé au Conseil national du SFA. J'étais un des rares conteurs à rentrer dans le monde des artistes. Voilà, je me suis battu pour que le terme conteur apparaisse dans les conventions collectives et dans ce qu'on appelle les nouvelles organisations, les nouvelles organisations NAO pour redéfinir chaque année les bases. Et puis là, je me retrouve devant des gens qui me disent, qui me disent rien. J'aimerais tellement m'engueuler avec des gens pour qu'on puisse s'expliquer. Mais voilà, tu t'aperçois que dans le milieu du conte, je suis désolé, mais il y a toute cette apparence, oui, on est frère, on est sœur, on est dans la bienveillance, on est dans la culture chamallow et compagnie, mais derrière, c'est le business. C'est le business. Et donc, les jeunes, enfin, moi, j'ai eu le privilège de pouvoir être avec des amis conteurs où on était ensemble, on travaillait ensemble, ils nous appelaient, on venait. Et il y avait ce projet politique de bien se positionner. Maintenant, il y a de tout, de rien. Quand tu vois que le monde du conte se développe à partir de choses et d'autres, de bonne volonté, certes, mais on confond les amateurs, les professionnels, on confond tout et on mélange tout. Et comment tu veux arriver à reconnaître et à faire surtout reconnaître une profession dans une société qui ne nous attend plus, au contraire? Tu vois, moi, c'est ça qui me... voilà. Et en plus, on sert de laboratoire parce qu'on attaque la présomption de salariat. Et ça, c'est grave. Parce que si on nous attaque à nous, petit à petit, on va commencer à s'attaquer. On s'est déjà attaqué aux saisonniers. Puis après, on va s'attaquer au CDD. On le voit bien avec Pôle emploi. On le voit bien avec la retraite. Puis après, ça va être là. On va dire, voilà. Puis on va laisser le libéralisme rentrer. Et on va dire, bah, après tout, chacun doit être dans son entreprise, auto-entrepreneur. Et la solidarité interprofessionnelle, elle est où ?
Humanité, c'est un grand mot, hein. Mais en vérité, toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus nous, on forme cette humanité. Et depuis la nuit des temps, l'homme et la femme ont dû chercher le brin d'humanité qui est en eux pour sauver leur devenir et celui de leurs semblables. Combattre le sida, c'est peut-être donner une chance, oui, je dis bien une chance aux hommes et aux femmes de mieux se rencontrer, de mieux se reconnaître et surtout de mieux s'accepter dans la différence. C'est surtout donner la possibilité aux hommes et aux femmes de leur montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, pour peu qu'on y apporte un petit peu d'amour et de sagesse pour soi et pour l'humanité entière. Voilà, j'ai terminé. Et des grands mots, hein, des grandes phrases, des grands discours. Mais en fait, peu importe. Sachez que moi, je suis un homme, je fais partie de cette humanité, j'aime la vie, et tenez, je vous le prouve. Simplement, par une bobine de fil, et de dire simplement qu'une bobine de fil défile, juste pour vous dire qu'en vérité, la vie ne tient qu'à un fil. Pourtant, si d'aventure, tu joues aux équilibristes sur le fil de la vie. Tu auras du fil à retordre pour filer droit. Dites-moi, vous suivez le fil de mon histoire? Mais au bout du compte, si je trouve en toi la force et l'amour que tu portes à la vie, ces bouts de vie, ces bouts de fil, se mettront en boule. Et grâce au sel de la vie, la parole, ces bouts de vie, ces bouts de fil, se mettront en boule pour me permettre d'exprimer haut et fort qu'en vérité, je tiens au fil de la vie.
Le fil de la vie. Encore un extrait du spectacle « Si d'aventure la vie ». Avec une simple bobine de fil, Claude Delsol, magicien, conteur des mots et des objets, nous montre la fragilité mais aussi la force de la vie. C'est pas pour dire, depuis la Martinique, avec le conteur. Claude Delsol en compagnie d'Angèle Goduchot.
Si tu devais t'adresser à des jeunes gens, là, tu dirais quoi? Ce serait quoi les compétences nécessaires, on pourrait dire, un conteur, une conteuse?
Moi, j'ai fait une formation, enfin, j'ai dispensé une discussion l'autre fois. Je me suis dit, tu vas voir des jeunes, des apprentis. Bon, j'ai un certain nombre de choses, de dire l'instant présent, bonjour. Chaque jour est le début d'une nouvelle vie qui nous reste à vivre, en disant, ben, personne ne t'oblige à être là. Donc, si tu es là, c'est que tu le veux. C'est de dire maintenant. Maintenant, quand tu prends le mot maintenant, je tiens le temps dans ma main. Tu vois, il y a des choses comme ça. Offrir, offre. On s'enrichit de ce qu'on donne, on s'appauvrit de ce qu'on prend. Travaille sur ta caisse de résonance avant de travailler ta technique. Tu vois, enfin, un talent sans travail n'est qu'une mauvaise manie, dit Georges Brassens. Tu vois, donc je ne réponds pas ce qui, pour moi, c'est des choses importantes. Mais en fait. Moi, quand je me suis retrouvé à discuter avec les gens, j'ai dit, vous voulez devenir conteur? Tenez, j'ai sorti le bouquin de Catherine Zarkat.
Clarté, qui est donc un livre qui est paru il y a un an maintenant.
Oui,
à peu près.
Un recueil de chroniques.
Un recueil de chroniques, en fait. C'était ses newsletters.
Oui, chaque mois, Catherine Zarkat, depuis 2014, elle fait une chronique. Elle dit ce qu'elle pense du monde du conte, des contes, comment le public, comment le conteur, comment l'histoire, etc. C'est pas de la vérité, c'est sa vérité, etc. Mais comme je dis, tu le prends, tu le lis, tu t'inspires, tu as 100 chroniques là-dessus, tu les lis, tu les relis. Quand tu les as relus, tu les relis encore. Hein. Tu les relis. Et dans 15 ans, 20 ans, on en reparlera. C'est ce que je dis. Non, mais je veux dire, je ne peux pas faire mieux. Parce qu'à un certain moment, c'est une démarche individuelle. Il faut que tu comprennes ces mécanismes. Moi, j'ai peut-être une propension, j'ai développé. C'est pas spontané.
Là, tu parles de rentrer dans cette fonction-là d'artiste.
Oui. Oui, mais moi, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, j'ai envie de raconter des histoires à mes enfants, ben voilà, je vais l'accompagner. S'il n'y a pas de... Le seul problème, c'est que moi, je me suis fait avoir plein de fois, quoi. Il y a des gens qui arrivent, qui sont des super... Enfin, qui humainement, c'est beau. Et en fait, de suite, d'un seul coup, ils se disent, ah tiens, si je sautais la barrière. Donc, c'est plus des amateurs, c'est des gens qui décident de vivre de ça, mais pas suffisamment comme artistes. Donc, on retrouve des retraités, on retrouve plein de gens comme ça, qui s'initient comme ça sur scène, qui vont voir des mairies en disant, mais moi, je peux venir pour... Je suis retraité, je n'ai rien à foutre. Alors que nous, on a besoin de vivre, parce que j'ai besoin de cotiser, j'ai besoin de manger. Enfin, il y a tout ça, ce salaire différé. Et donc, on revoit des gens, quelquefois, on dispense des choses, mais en vérité, bon, y a des gens, ils font ça dans une dynamique de gagner de l'argent, etc. Le conte, il appartient à tout le monde. Je veux dire, moi, ça ne me dérange pas. Je me pose là, actuellement, parce que ça va être aussi le sujet de notre discussion mercredi.
Mercredi, c'est la journée mondiale du conte et on sera tous là, les conteurs de l'AMI et les conteurs invités, on sera tous dans cette grande et belle bibliothèque Schœlcher dans Fort-de-France.
À Fort-de-France, oui. Et donc, on se pose la tarte à la crème actuellement, c'est le conte en tant qu'outil pédagogique. Voilà. Et donc, on n'arrête pas de donner des moyens, de réfléchir là-dessus, de se centrer là-dessus. Et moi, c'est un véritable problème, c'est un véritable questionnement. On a Suzy Platiel qui nous a quittés. Elle était dans cette démarche d'enfant compteur, etc. C'est très bien, mais Attention, si on positionne tout le temps le conte comme outil pédagogique au service de l'enfance,
on devient des enseignants et pas des conteurs.
Et on devient plus des, on n'est plus dans le monde du spectacle vivant et de l'artistique. Mmh. Et on le retrouve ça.
Que tu es un artiste, c'est quoi être un artiste?
Alors là, pour le coup, moi j'ai ma réponse et je te la dirai au dernier moment. Mais simplement, c'est pour, juste pour illustrer l'histoire pédagogique et éducative. C'est Catherine Tarcat encore qui, moi,
bonjour Catherine.
Oui, c'est un gros clin du cœur. Elle dit, quand elle disait, les contes, c'est pas fait pour endormir les enfants, mais pour réveiller les parents. Ben voilà, on a la situation. Moi, alors, si tu veux qu'on termine et qu'on clôture le débat, je vais te le dire. Ben, c'est l'histoire des conteurs de Henri Gougaud. C'est-à-dire, moi, je compte, et je le raconte, cette histoire, l'histoire de ce vieux monsieur qui vient dans son village, qui se dit, mais avec tout ce que j'ai accumulé comme savoir, je pourrais mettre sur la place pour raconter des histoires. Il travaille, il fait ça, et un jour, il est sur la place, il raconte, et il se dit, avec toutes mes histoires, je vais pouvoir changer le monde, quoi. Et puis, il raconte, il y a 10 personnes, un enfant, un chien, et il se dit, ben, demain, je reviendrai. Et puis, le temps passe, il y a moins de monde, il vient tout seul, il apprend. Je le fais vite, hein. Il continue de compter les yeux fermés, le temps laisse du temps au temps, comme dit l'histoire, l'enfant grandit, le chien meurt, l'enfant est un homme, il a un enfant, et puis un jour, alors que ce vieux monsieur qui est toujours là, qui vient tous les jours pour dire ses comptes, pour changer le monde, ben l'enfant, un moment, traverse la place et tire la veste du monsieur et le monsieur ouvre les yeux et l'enfant dit mais écoute, ça sert à rien de raconter tes histoires, plus personne ne t'écoute, tu vas pas changer le monde comme ça. Et puis le vieux monsieur ferme les yeux, il raconte une autre histoire et quand il a dit le fameux cric-crac, mon comtesse s'acabate, il ouvre les yeux. Moi je dis qu'il pleure un petit peu et qu'il dit à l'enfant oui tu me fais prendre conscience qu'il y a très longtemps j'étais venu ici pour raconter mes histoires, parce qu'avec mes histoires, j'allais changer le monde. Mais figure-toi, si je suis là aujourd'hui, si je serai là demain, et si je reviendrai, c'est pour pas que le monde, lui, me change. Voilà, c'est ça. Moi, je crois qu'on est on est de passage. La vie, c'est précieux. Et parce que c'est précieux, on a un pouvoir absolu sur notre vie. Et le devoir de laisser quelque chose. On a des droits, on a des devoirs. Ce devoir, c'est essayer de faire passer la vie et de laisser quelque chose là. Et bien, moi, c'est ce que je fais. Et je me donne les moyens de faire passer les choses pour dire non, le monde, j'ai envie aussi qu'il ne me change pas à certains moments. J'ai des choses que je prends, je suis une éponge, mais à d'autres choses, je dis non. Voilà. Et j'essaye de le dire avec le plus d'humour, le plus de sensibilité, le plus de poésie, et où que ce soit, et de façon universelle. Si on se regarde dans les yeux, eh bien, tu me vois dans mon regard comme moi je te vois dans ton regard, au nom de l'humanité.
Merci Claude Del Sol. J'ai pas
comme tu veux. Allez.
Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci Yann Gaël d'avoir réalisé cette interview et de nous avoir fait partager ce moment avec Claude Del Sol, conteur, magicien, clown, un homme pour qui le spectacle vivant est avant tout un moment de partage et pour qui la magie est un passeport mondial, un moyen de rencontrer les gens. Car nous avons tous besoin de merveilleux, vous ne me contredirez pas. Nous laissons nos deux conteurs invités au Festival international de contes Graines de Parole en Martinique, où la réflexion autour du conte se poursuit encore et encore. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, bye bye. I still have a dream.